Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Urgence.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Je vous parle de Chicago, la Windy City, du County General Hospital, dit le Cook County, et de George Clooney, vous me répondez « Gaz du sang, yono, sat, et on dégage !» Urgence, à la différence de la plupart des séries médicales qui l'ont précédée, se focalise sur les docteurs et pas sur les patients. Ce n'est pas, comme on disait avant, la série avec le « disease of the week », la maladie de la semaine, mais des docteurs faillibles, fatigués, très loin des grands sages tout-puissants que la télé décrivait avant. C'est la plus longue série médicale de prime time de la télévision américaine. Enfin, en tout cas, elle le sera jusqu'en 2019, époque à laquelle Grey's Anatomy va la rejoindre avec sa saison 15. Dès le début dans Urgence, le choix était d'avoir 8, 9, 13 histoires simultanées qui se déroulent au sein d'un même épisode, avec donc un rythme effréné, une caméra qui virevolte entre les situations. Et tout cela parce que nous nous trouvons dans un service d'urgence, où tout se déroule très vite et en même temps. Par contre, les arcs narratifs concernant les personnages, eux, s'étirent sur 10 ou 11 épisodes, un peu à la façon d'un soap, là encore, par volonté de réalisme. Dès sa saison 2, Urgence arrive en tête de toutes les audiences télé de l'année. Elle sera numéro 1 deux saisons de suite, remportera 23 Emmy Awards et sera récompensée meilleure série en 1996 pour sa saison 2. Et en France, c'est pareil. La série démarre sur France 2 un an après son lancement aux États-Unis, donc en été 1996, mais en prime time, le jeudi soir, ce qui était carrément exceptionnel pour l'époque. Bon, il n'y avait plus vraiment de série américaine en soirée depuis quelques années. À la rentrée, elle passe au dimanche soir et remplace donc le traditionnel film, des années avant que TF1 en fasse de même avec les experts. Avec 331 épisodes et 15 saisons, inutile de vous dire que pour préparer ce programme, j'ai dû faire des choix. Et j'ai volontairement omis des trames ou des personnages qui vous sont peut-être familiers ou qui vous ont intéressé. Mais si j'avais été exhaustif, on y serait encore dans 4 heures. Hein, et puis vous n'avez pas tout votre temps. Alors c'est parti, les moments forts d'urgence. La saison 1 démarre avec l'arrivée au service des urgences du docteur John Carter, à savoir Noah Wiley. Il était alors externe. Il va y rencontrer le docteur Mark Green, la docteure Suzanne Lewis. Il sera supervisé par le docteur Peter Benton, puis par la responsable, la docteure Kerry Weaver. Et surtout, il va rencontrer le cow-boy de l'équipe, le mauvais garçon, qui vit de façon un petit peu excessive, Doug Ross, à savoir George Clooney. En 2015, Noah Wiley s'est remémoré, pour le journaliste Roman Gita et pour moi-même, les débuts de son personnage. Au début de la série, John Carter était le personnage comique. C'était celui qui trébuchait sur un peu tout, qui tombait, qui heurtait les choses. Du genre à se mettre tout un tube d'urine sur lui, vous voyez. J'ai commencé à vraiment apprécier cet aspect du personnage et à le mettre en avant, et que cela soit écrit ou pas. J'adore la comédie, et j'aimais beaucoup comment, à l'époque, je pouvais voler la vedette à George Clooney en faisant quelque chose de fou derrière lui. Il ne s'en rendait pas compte jusqu'au moment où il regardait l'épisode, hein. C'était ma façon un peu subversive de lui voler un peu de la lumière. Et puis, soudain, on m'a proposé de vouloir créer un personnage tout entier avec toutes ses attitudes physiques. C'est surtout le 18e épisode, Lost Labor Love, Travail perdu, qui marque la saison 1 d'Urgence et toute l'histoire des séries de télé. Et oui, il est depuis systématiquement mentionné comme un des moments les plus intenses de l'histoire des séries. Il a remporté à lui tout seul 5 Emmy Awards sur les 8 qu'obtient la première saison et a fait quelque 34 200 000 téléspectateurs à sa première diffusion. Dans cet épisode, Mark Green, jusqu'alors un docteur modèle qui a toujours raison, fait une suite d'erreurs en cascade absolument catastrophiques et qui vont entraîner la mort d'une jeune femme qui rentrait aux urgences pour un simple examen avec son mari. Des jeunes mariés qui attendent leur premier enfant. Le mari d'ailleurs, c'est Bradley Whitford, qui sera par la suite une des vedettes de The West Wing, du même producteur de la série, John Wells. La descente aux enfers inéluctable de Green est marquante. L'épisode est bouleversant. Anthony Edwards fait une prestation absolument extraordinaire. La scène finale, où il se trouve sur la station de métro à la fin de ce carnage, a pourtant été tournée 2 mois avant. Et pendant le tournage des scènes de césarienne, pour détendre un peu l'atmosphère, ils ont utilisé un bébé alien qui était dans le studio d'à côté, sans doute issu de la série V. Et Clooney jouait au foot avec le bébé en silicone qui était censé être dans la scène. Et enfin, le jour de la diffusion, la femme d'Anthony Edwards, à savoir le docteur Mark Green, était tellement sous le choc qu'elle ne l'a même pas laissé rentrer. Il revenait du tournage et elle lui a dit « Non, tu ne rentres pas, tu as tué cette femme, tu as tué une mère. » Bon, elle blaguait, hein, mais elle blaguait à moitié. Quentin Tarantino, qui est grand fan de la série, va réaliser l'avant-dernier épisode de cette saison. Mais l'épisode marquant de la saison 2 est, lui, Hell on High Water, les eaux de l'enfer. Alors ce coup-ci, c'est un suspense totalement haletant qui ne se déroule pas du tout aux urgences, mais dans les égouts, où un jeune enfant est coincé alors qu'un orage fait gonfler les eaux. Et que Doug Ross, qui passait par là, va libérer l'enfant, puis le sauver alors qu'il est victime d'un arrêt cardiaque. Ça a été un épisode très compliqué à produire, le premier à être tourné en dehors du décor habituel de l'hôpital. Et puis de nuit, avec des torrents d'eau qu'il fallait chauffer quand même, il y avait aussi un enfant, et puis un George Clooney qui était trempé et qui pataugeait dans l'eau 15 heures par jour. Cameron Diaz est même venu un soir assister au tournage de l'épisode de son ami Clooney. C'est avec cet épisode que le docteur Ross passe du stade de rebelle, dont la vie personnelle était sur la pente descendante, au stade de héros. La perception qu'on a du personnage est totalement modifiée et lui aussi devient moins arrogant, moins égoïste. C'est en fait, quand on réfléchit bien, la trajectoire opposée de Green dans l'épisode de l'année dernière. Bon, soyons prosaïques, cet épisode, Hell's on High Water, fait 48 millions de spectateurs. 48 millions, avec une part de marché absolument hallucinante de 45% des gens qui regardaient la télévision ce soir-là. George Clooney accède instantanément au stade de star. Bon, sinon, dans tous les autres épisodes de la série, il y avait quand même un fil rouge très intéressant. C'était Suzanne qui tente d'adopter Suzy, la fille que sa sœur vient de mettre au monde et qu'elle a abandonnée. Lors de la saison 3, Carol et Doug vont parcourir la ville pour porter secours au SDF. Carol va d'ailleurs être prise en otage durant un hold-up et Benton va devenir papa, lui, de son côté. Mais le thème de la saison, c'est la séropositivité de Jenny Boulet et comment elle peut continuer à exercer. Urgence profite de son audience pour aborder de front des sujets sociopolitiques tels que le sida, le don d'organes, les droits LGBT, l'euthanasie, etc. Laura Innes, qui tenait le rôle de Kerry Weather, était aussi aux premières loges de cette intrigue et m'en parlait en 2000, revenant ainsi sur l'évolution de son personnage. Quand j'ai débarqué dans la série, j'avais une fonction centrale, créer des conflits. Être une voix différente, plus abrasive. C'était très juste de faire cela à l'époque, car la plupart des personnages étaient héroïques et la série avait besoin d'un tel regard. Mais si vous voulez conserver ce personnage sur la durée, il faut aussi la laisser évoluer et montrer d'autres facettes de leur personnalité. Je me souviens, par exemple, quand ils m'ont dit pour la première fois que j'allais avoir toute une histoire avec un enfant sourd et que j'avais cette pratique du langage des signes. Alors, c'était une petite ouverture pour mon personnage. Petit à petit, ils m'ont donné ce type de trame. Et arrive l'histoire avec le personnage de Gloria Reuben, Jenny Boulet, qui est séropositive. Et les scénaristes font de moi ce personnage avec beaucoup de compassion. À ce moment-là, le personnage est sorti du cadre où il était initialement destiné. Et c'est aussi dans cette saison 3 le départ, dès les premiers épisodes, de l'actrice Shiri Stringfield, alias Suzanne Lewis. Vers la fin de la saison, alors que Doug et Carol renouent avec leur amour passé, Mark Green se fait agresser dans les toilettes de l'hôpital, et cela va le traumatiser un long moment. En 1997, pour la saison 4, c'est l'arrivée du docteur Corday, interprété par Alex Kingston. Elle sera au centre d'un triangle amoureux entre Benton et le docteur Romano, à savoir Paul McQueen, qu'on connaissait pour le film et la série Fame, et qui tient là le rôle d'un docteur arrogant et insupportable. En saison 5, Carter a une nouvelle externe à superviser, Lucy Knight, alias Kelly Martin, qui était auparavant la vedette d'une formidable série qui est maintenant un peu tombée dans l'oubli, Life Goes On. Corky et Nado, pas comme les autres, de leur côté. Une relation amoureuse sérieuse naît entre Green et Corday, et Peter Benton va devoir gérer la surdité de son fils nouveau-né. Le docteur Ross, lui, va commettre pour la dernière fois une infraction au règlement. Il va donc démissionner et quitte Chicago. Il laisse là Carol, qui apprendra au moment de son départ qu'elle est enceinte. Et en plus, surprise, il s'agit de jumeaux. Pour remplacer George Clooney en saison 6, arrive Goran Višnjić, que l'on a un peu vu dans le film Le Pacificateur, un film de Mimi Leder avec justement George Clooney, et dans un clip de Madonna. Il va tenir le rôle du docteur Luka Kovacs. pour remplacer Jenny Boulet, qui quitte son travail pour s'occuper de son enfant, débarque Abby Lockhart, une étudiante en troisième année de médecine. C'est Maura Tierney qui tient ce rôle, une actrice que l'on connaissait plutôt pour ses personnages comiques dans la sitcom News Radio ou dans le film Menteur, menteur. Il y a deux moments inoubliables dans cette saison. Tout d'abord, dans un double épisode, Sois sereine mon cœur, be still my heart et Tous pour eux, All in the Family, Carter se fait poignarder par un patient en pleine crise psychotique. Alors qu'il s'écroule, il découvre près de lui le corps de Lucie qui est en train de se vider de son sang. Dans l'épisode suivant, Lucie ne survivra pas. Ce drame et le sentiment de culpabilité est en fait un catalyseur et va entraîner Carter sur la pente de l'addiction aux médicaments, une trame centrale de la saison que le producteur John Wells voulait faire depuis longtemps. Un docteur drogué. Pour Carter, il faudra toute la force de ses amis, Green, Benton et Weaver entre autres, pour qu'il reconnaisse son addiction et se fasse désintoxiquer. L'autre grand moment de cette saison, c'est dans l'avant-dernier épisode. Carol Attaway décide, sur un coup de tête, de rejoindre l'homme qu'elle aime depuis des années, Doug Ross. Elle quitte donc Chicago pour Seattle. Et on peut noter aussi dans cette saison un hommage à une autre série médicale mythique de la télévision, MASH. En effet, Alan Alda, qui tenait le rôle principal dans MASH, mais aussi présida sa production et remporta d'ailleurs plus de 6 Emmy Awards, va faire une apparition dans le rôle du docteur Lawrence. On est en 2000 et la saison 7 met vraiment en avant le personnage d'Abby, ses relations amoureuses avec Kovac et l'arrivée de sa mère bipolaire, interprétée par la grande actrice Sally Field. D'ailleurs, elle a obtenu un Emmy Award pour sa prestation exceptionnelle. C'est le début aussi d'une trame, encore une fois, totalement innovante, qui concerne le docteur Weaver et qui va se lancer dans une relation avec une autre femme, le docteur Legaspi, interprété par Elizabeth Mitchell, que l'on reverra par la suite dans Lost et dans V. J'ai eu un rendez-vous avec les producteurs, je pensais au départ que c'était pour réaliser un épisode, et ils ont commencé à me parler de cette idée, et ma première action a été d'en rire. J'ai ressenti que c'était quand même intriguant et que ça sortait de nulle part. Et plus j'y pensais, plus ça m'intéressait. Pour un personnage comme Weaver, qui ne pense qu'au boulot et qui se contrôle tout le temps et totalement, que quelque chose lui arrive qui altère à ce point son point de vue et lui met le nez littéralement dessus, j'ai pensé alors que c'était un truc formidable à faire. Quand vous avez une série qui dure depuis longtemps, vous devez rechercher constamment de nouvelles histoires. Et celle-ci résonnait avec son rôle dans l'hôpital, son ambition. Mais évidemment, de façon plus personnelle. Il y avait des ramifications politiques et sociales qui étaient très intéressantes. Au détour de cette saison, vous pourrez repérer des visages qui deviendront connus par la suite. Wentworth Miller de Prison Break, Jared Padalecki de Supernatural ou Jeffrey Dean Morgan de Grey's Anatomy. Et l'épisode spectaculaire de cette saison, parce qu'il en faut toujours un, c'est le 150e de la série. Il se déroule sur les lieux d'un accident de train. Mais ce qui sous-tend cette saison, c'est le début de la fin pour Mark Green. Il est diagnostiqué d'un cancer en phase terminale, se fera opérer, se mariera avec le docteur Corday qui, elle, est enceinte. La longue maladie et la mort de Gwyn, d'une tumeur au cerveau, sera donc au cœur de la saison suivante, la 8. Il partira se reposer à Hawaï, où il passera ses dernières heures, lors d'un épisode atypique qui se déroule donc très loin de l'hôpital. Cette disparition, ainsi que le départ de Benton, Eric LaSalle, et de Malucci, Eric Palladino, marque un changement profond pour la série. Carter devient maintenant le personnage le plus ancien, et donc la figure de référence pour tous les autres. Il y en a qui partent, mais par contre, il y en a qui reviennent. Et la saison voit aussi donc le retour de Susan Lewis. Sherry Stringfield avait en effet quitté la série il y a quelques années, mais c'était pour mieux y retrouver sa place. Et puis il y a aussi l'arrivée du docteur Gallant, Sharif Atkins et du docteur Pratt, Mekki Pfeiffer. Le moment choc de la saison 9 arrive dès le tout premier épisode. C'est l'accident dont est victime l'irascible docteur Romano, alors qu'il gère une évacuation par hélicoptère sur le toit de l'hôpital. Il se fait purement et simplement sectionner le bras par le pal de l'hélicoptère. Durant la suite de la saison, il va lutter pour une greffe et conserver ses fonctions au sein de l'hôpital. Mais surtout, l'épisode qui a marqué les esprits et contribué à éveiller les consciences, c'est le dernier de la saison. Kisangani, qui est censé se dérouler en Afrique, au Congo-Kinshasa, en pleine guerre, où Kovac et Carter se rendent. Cet épisode tourné en Afrique du Sud a réuni quelques 21 600 000 Américains devant leur écran. Et le producteur John Wells est fier de dire qu'ils attirent plus l'attention sur le conflit au Darfour que n'importe quel débat télévisé. La productrice de la série, Jeanine Sherman-Barwa, qui travaillait donc à l'époque sur ces épisodes, m'en a parlé. C'était au festival Scénariste en série en 2007. En vérité, la série avait tellement de succès que nous avons pensé que nous pourrions parler du génocide qui se déroulait alors que les autres médias n'en parlaient pas. Si nous pouvions éveiller l'attention de 14 millions de gens sur ce qui s'y déroulait, sur la tragédie du Darfour, on devait le faire. Même si cela ne nous apportait pas une audience forte. Nous pensions que le génocide au Darfour serait terminé au moment où l'épisode serait diffusé. On n'avait pas la moindre idée qu'il se poursuivrait encore. On s'est senti assez fiers de pouvoir mettre la lumière là-dessus. Des enfants à travers le pays ont rassemblé des fonds et ont fait plein de choses pour aider les enfants dans les camps au Darfour. Et ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu cette occasion d'en discuter. Et ce n'est pas qu'un seul épisode qui se passe au Darfour. C'est une trame qui va résonner tout du long de la saison suivante, la 10e, pour les deux personnages. Carter va retourner en Afrique pour tenter de retrouver Lucas. Le deuxième épisode montre ce qui lui est arrivé, comment Carter le retrouve et le ramène à Chicago. Carter va s'éprendre en Afrique de Makemba, à savoir Kem, qui est enceinte. Et c'est l'actrice Tali Newton de Mission Impossible 2, et que l'on voit maintenant dans Westworld, qui incarne le personnage. Parminder Nagra, la vedette du film « Joue-la comme Beckham », débarque dans le rôle de l'étudiante en médecine Nila Ragrostra. Et Linda Cardinelli, du film « Scooby-Doo », incarnera une nouvelle et jeune infirmière, mère divorcée, Samantha Taggart. Arrive aussi, où il y a plein d'arrivées dans cette saison, Scott Grimes, de « La vie à 5 », qui tient le rôle du docteur Morris, un docteur complètement gaffeur. C'est une volonté des producteurs de mettre un peu d'humour et de sourire dans une série qui était jusqu'alors très anxiogène et très dramatique. Par contre, puisqu'on parle de choses dramatiques, c'est un départ, celui du docteur Romano. Il commençait pourtant à peine à s'habituer à sa prothèse, vous vous souvenez, hein, il s'est fait couper le bras. Eh bien, les scénaristes décident de faire s'écraser un hélicoptère sur lui, juste à l'entrée des urgences. C'est un drôle de sens de l'humour. Hein. Le docteur Gallant, lui, doit partir sur le front irakien. Weaver est maintenant en couple avec Sandy Lopez, une femme pompier, et elles ont ensemble un petit Henry. Tragiquement, Sandy va décéder lors d'un feu et Kerry va devoir se battre pour la garde d'Henry. Et Cordev fait connaissance, elle, de la fille de Mark Green, Rachel. Nous sommes en saison 11 et l'arrivée majeure, c'est Shane West, un nouvel interne, Ray Barnett, dans le moule du personnage de Carter. C'est nécessaire puisque Noah Wyle, lui, est sur le départ. Vers la fin de la saison, c'est Carter qui donc quitte aussi la série en tant que personnage régulier. Il se rend tout d'abord à Paris, pour y retrouver Kem, à l'hôpital Saint-Antoine, dans un épisode qui a réellement été tourné en France, à Paris, et qui a pour titre « Carter est amoureux » en français dans le texte. Puis, il revient à Chicago pour son dernier jour, il va travailler au Darfour avec Kem. L'autre départ, c'est celui d'Alex Kingston, car son contrat prend fin. Exit donc le docteur Corday, on retrouve à Kingston, entre autres, dans la série Doctor Who. Le temps de quelques épisodes, Carter va vivre une romance avec Machine Emmick de Twin Peaks, qui tiendra le rôle d'une assistante sociale. Et puis, il y a toujours un épisode remarquable, donc cette saison, c'est Time of Death, heure du décès, avec Ray Liotta dans le rôle d'un alcoolique qui n'a plus que quelques minutes à vivre parce qu'il est atteint de cirrhose. C'est cette seule et unique histoire qui est retracée dans l'épisode par opposition aux 9 ou 12 histoires simultanées habituellement. Et cet épisode nous est montré en temps réel, l'action se déroule réellement en 40 minutes. Avec le départ à nouveau du docteur Suzanne Lewis, alias Sherry Stringfield, en début de saison 12, eh ben c'est fait. Il ne reste plus aucun membre de la distribution d'origine. Noah Wyle va cependant reprendre le rôle de Carter en tant que guest, vedette invitée donc pour 4 épisodes, tout comme Sheriff Atkins, qui sera dans 4 épisodes, toujours dans le rôle du docteur Gallant, avant que son personnage ne soit sacrifié en Irak. La nouveauté de cette saison consiste à retrouver la très grande, enfin grande par la taille, Kristen Johnson, que l'on avait beaucoup appréciée dans la sitcom « Troisième planète à partir du soleil », dans le rôle de la chef infirmière Eve Payton. Et puis il y a aussi John Leguizamo, qui va tenir le rôle du docteur Clement dans 12 épisodes, avant que l'on ne comprenne qu'il est atteint d'un syndrome post-traumatique qui le rend hystérique. Et puis dans le 7e épisode arrive John Stamos de « La fête à la maison », et qui va tenir le rôle du secouriste Tony Gates. Il deviendra par la suite médecin. Plus que les autres, c'est sa notoriété qui va servir à la série. Il devait déjà tenir le rôle du docteur Malucci en 1999, mais de son propre aveu, il a totalement loupé son audition. Et sinon, Kovacs devient le chef des urgences, Abby est enceinte, craint qu'il ne soit lui aussi bipolaire comme son frère et sa mère. Weaver se fait une opération de remplacement de la prothèse pour la hanche et peut maintenant marcher sans canne. Enfin, comme il faut bien un cliffhanger en fin de cette saison, cette fois-ci ce sont deux prisonniers qui déclenchent une fusillade aux urgences et Abby qui accouche prématurément, Sam est kidnappé avec son fils. Bon, voilà, tout ça se résout évidemment au début de la saison 13. Plus que jamais, Abby et Kovacs sont au cœur de cette saison 13. Ils vont même se marier avant que Kovacs ne parte en Croatie et ne quitte la série en fin de saison. C'est aussi le départ de Kiri Weaver et de Ray Barnett, amputé après avoir survécu un accident. Le personnage de John Stamos, lui, devient médecin, hein, c'est ce que je vous avais dit, il prend donc beaucoup plus d'importance. Et dans le cliffhanger le plus grotesque de toute la série, Getz et Nila sont pris dans une émeute et Nila est piétinée. Oh, suspense. On arrive au 300e épisode de la série avec la saison 14. Goran Visnik, tout comme Noah Wyle, ne sont plus là que pour quelques épisodes. Stanley Tucci, le nouveau chef des urgences, est apparu à la fin de la saison précédente. Et dans un effort désespéré pour relancer la série, Gloria Reuben revient dans le rôle de Jenny Boulet. Et dans le dernier épisode, Abby et Lucas partent pour Boston. Nous sommes au début de la saison 15, en 2008. C'est enfin, la saison finale de la série. Tout du long de la saison, des anciens personnages et acteurs font leur retour le temps d'un épisode. Peter Benton, Eric Lassalle, Doug Ross, George Clooney, Carol Attawer, Juliana Margulies, Suzanne Lewis, Elisabeth Cordet, Kerry Weaver, à savoir Laura Innes, Ray Barnett, Shane West, Dr. Morgenstein, William H. Macy, Kem, à savoir Sandy Newton, et même Abraham Ben Ruby, qui tenait le rôle du réceptionniste Jerry depuis le début jusqu'en 1999, pour revenir en 2002 et se faire tirer dessus en 2006. Pour Mark Green, Anthony Edwards et Romano, Paul McCrane, il s'agit de flashbacks datant d'avant leur mort, surtout lors d'un épisode absolument génial, Heal Thyself, Guéris-toi toi-même, où le docteur Banfield, interprété par la grande Angela Bassett, revit pendant une intervention le moment où elle amenait son propre enfant aux urgences et où le docteur Green n'est pas parvenu à le soigner. Mais vous allez me dire, il y a quelqu'un qui manque dans cette liste, Pratt. Pratt, lui, on le fait mourir avec l'explosion d'une ambulance. Le tout dernier épisode de la série voit le retour de Peter Benton, de Suzanne Lewis, de Kerry Weaver et d'Elisabeth Cordet, qui viennent pour l'ouverture du centre hospitalier de Carter. Et enfin, le tout dernier plan nous montre l'entrée des urgences, mais pour la seule et unique fois dans la série, la caméra s'éloigne et nous montre l'intégralité du Cobb County. Le tout sur le thème du générique de la série par James Newton Howard.
Et côté coulisses, ça donne quoi ?
Et maintenant, je vous entraîne dans les coulisses d'un hôpital, le Cobb County, à savoir les coulisses d'urgence. Eh bien, Urgence n'est pas la première série médicale de la télévision américaine, pas du tout. Depuis les années 60, les spectateurs ont partagé la vie du docteur Kildare, interprété par un tout jeune Richard Chamberlain, de Ben Casey avec Vince Edwards, de Robert Young, qui incarna pendant 7 saisons le médecin de famille, le docteur Marcus Welby, et du docteur Gannon dans Medical Center. Et dans les années 80, une série médicale a fait date pour son réalisme. Elle s'appelait Saint Elsewhere, elle dura 6 saisons et vit les débuts à l'écran de Denzel Washington. Si tous ces titres ne vous disent pas grand-chose, eh bien c'est pas étonnant. La télévision française était jusqu'alors extrêmement frileuse sur le sujet et l'ordre des médecins la décourageait même très fortement de diffuser ces séries étrangères. Quand la Warner commença à proposer le scénario du pilote d'urgence à la chaîne NBC, elle fit changer 2 choses. La ville où se déroulait initialement l'histoire, ça devait être Boston, mais Boston était déjà le lieu où se déroulait la fameuse série Saint Elsewhere dont je viens de vous parler. Donc, on proposa un petit peu au hasard Chicago. Et puis, quelques noms et quelques références dans les scripts qui ne collaient pas. Des noms de sportifs qui étaient dans des équipes de la ville, mais dans les années 70. Et ben oui, preuve que le projet traînait depuis déjà pas mal de temps. Et effectivement, le scénariste avait écrit cette histoire en 1974 en se basant sur des années passées en médecine dans un hôpital de Boston. Le script avait pour titre « 24 hours »,« 24 heures ». Le scénariste, c'était Michael Crichton, un romancier, scénariste de cinéma et réalisateur. Son roman, La variété Andromède, avait été adapté par Robert Wise à l'écran et il avait aussi écrit et mis en scène le film « Westworld » qui donna naissance, des décennies plus tard, à la série télé. Mais aussi les films Coma, Looker, Runaway, et enfin, il avait même écrit le scénario de Jurassic Park pour Steven Spielberg. Il connaissait Spielberg à l'époque où ce dernier n'était qu'un petit employé de la Universal. Et Spielberg lui avait fait visiter les studios. Spielberg était intéressé par son script, 24 Hours, 24 heures, mais pendant les discussions, il a été encore plus passionné par le roman que Christian était en train d'écrire, Jurassic Park. Donc tous deux se focalisent là-dessus et oublient un peu le projet de film médical que Spielberg voulait faire. C'est donc plus tard, en 1993, qu'un responsable de Amblin, la maison de production de Steven Spielberg, recontacte Christian et lui propose de prendre son script et d'en faire une série de télé. Le projet est déposé à la Warner, qui y associe un producteur exécutif particulièrement efficace, John Wells. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà tâté de la série médicale un peu compliquée à produire, China Beach. Lui et Christian retravaillent donc le script pour le rendre beaucoup plus acceptable avec une trame qui se tient, parce que le scénario d'origine était une suite de pastilles un peu sans lien les unes aux autres. Par contre, ils ont conservé tout le côté sanglant qui leur paraissait indispensable à la crédibilité de la série. Et Spielberg, dans ce domaine, a même déclaré que le nouveau script était bien plus gore que celui du film qu'il comptait faire à l'origine. Warner a donc le script, trouve ça plutôt très bien, propose le projet à la chaîne CBS, qui a dû le refuser à contre-cœur. Non pas que le script était mauvais, mais ils avaient déjà prévu une autre série médicale, chorale, qui se déroulait elle aussi à Chicago. La série s'appelait Chicago Hope. Elle était faite par David E. Kelley, une étoile montante de la production télé, qui avait déjà travaillé sur la loi de Los Angeles et créé pour la CBS Picket Fences, la ville du grand secret. Et par la suite, c'est le même David E. Kelley qui créa des séries comme The Practice, Boston Legal, Boston Public et Ally McBeal. Warner finalement accepte l'offre de la NBC, qui est de faire un téléfilm pilote de 90 minutes. La série est rebaptisée EW pour Emergency Ward, et puis finalement ER pour Emergency Room. Lee Moonves, qui était alors président de la Warner, fait jouer le deal qu'il avait depuis 4 ans avec un acteur et en qui il croyait dur comme fer, mais qui n'avait pas vraiment trouvé de bon programme, le bon film ou la bonne série pour pouvoir exploser au grand jour. Moonves était persuadé que le type avait une présence absolument extraordinaire. Les mecs voudront boire une bière avec lui et les femmes voudront coucher avec lui, disait Moonves. L'acteur donc, qui n'avait pas eu de chance jusqu'à là, a pour nom George Clooney. Il se donnait encore quelques années pour postuler dans des sauts de seconde zone histoire de survivre. Moonves lui envoie les deux projets de série, Urgence, une série chorale, et une autre où il était la vedette principale. Clooney lui dit qu'il préférait mille fois Urgence, et tout particulièrement le personnage du docteur Ross, Banco. Moonves l'annonce donc à son producteur John Wells, qui aurait pu se fâcher quand même qu'on lui impose un comédien sans prendre son avis, mais Clooney rencontre Wells, et puis finalement, John Wells dit « Bah oui, vous êtes un bon acteur, et allez hop, on le fait ». Laura Innes témoigne sur George Clooney.
George
adore faire des farces. La plupart d'entre elles sont d'ailleurs irracontables parce qu'elles sont bien trop obscènes. Mais il utilisait ce gel, une sorte de lubrifiant pour les intubations, et il en mettait partout. Il en mettait sur le téléphone. Donc quand on tournait une scène avec un téléphone, ça vous coulait de l'oreille. Un jour, on me demande, je peux t'en prêter ta canne ? Bon, il a joué avec, il marchait avec. Et puis, pour la scène suivante, il m'avait mis du gel partout autour de la poignée. À ce moment-là, je me suis dit que je faisais vraiment partie de l'équipe, parce que j'avais eu droit à ma première blague. C'est vraiment une présence formidable. Il est très marrant. C'est un type vraiment bien. Ensuite furent castés Eric Lassalle, qui était venu aux auditions avec la blouse de médecin qu'il portait et avait conservé d'une autre série médicale, loupée celle-ci, et qui n'avait duré que 8 épisodes en 1992, The Human Factor. Et puis Noah Wyle, qui ne croyait absolument pas à la longévité de la série. Je disais que faire un téléfilm, c'est déjà pas mal, et puis il y avait un chèque, c'était plutôt sympa. Et puis il y a eu aussi Anthony Edwards, qui avait déjà joué dans Top Gun, et Sherry Stringfield, qui incarnait déjà un personnage régulier dans la série NYPD Blue, sur une autre chaîne. Mais elle préféra le rôle, celui-ci était beaucoup plus intéressant à son goût. Et très gracieusement d'ailleurs, le producteur d'NYPD Blue, Steven Bochco, accepta de la libérer de son contrat, d'autant plus que David Caruso, qui tenait le rôle de John Kelly, et dont le personnage de Stringfield était censé être l'ex-femme, allait disparaître lui de la série. Et avant eux, il y a eu Julian Margulies, qui avait signé pour le rôle de l'infirmière Hathaway. Mais, et c'est pour ça que j'en parle que maintenant, son personnage se suicide dans le téléfilm. Il ne devait donc pas revenir dans la série. Si jamais il y avait eu une série, si elle était commandée. En visionnant le pilote, Steven Spielberg confie à John Wells qu'il trouvait que le personnage de Juliana Margulies devait absolument rester, qu'elle avait un charisme incroyable. Et George Clooney le pensait aussi. Il l'a dit au patron de la NBC. Et au final, quand la série est lancée, Margulies, finalement, est ressuscité. Le téléfilm pilote a convaincu NBC, mais non sans mal. Il aura fallu le résultat de tests d'audience pour prouver aux responsables que les spectateurs n'allaient pas être rebutés par la vitesse des scènes, par le langage un peu particulier, par le sang, par tous les éléments, là, généralement, qu'on n'aime pas dans une série, quoi. Non seulement NBC commande la saison, mais programme Urgence dans la case très 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 exposée du jeudi soir à 22h, après Friends et Seinfeld. En mai 1994, les chaînes de télévision américaines révèlent leur grille de rentrée. On découvre donc que ER est diffusé le jeudi soir, mais exactement le même jour et à la même heure que Chicago. Oui, vous vous souvenez, l'autre série médicale de la saison, celle de David Kelley. Même heure, même jour. Et la rentrée de septembre va donc être le témoin d'un combat de titans entre ces deux séries. En quelques semaines, Urgence arrivera à la 12e place des programmes les plus regardés, alors que Chicago plafonne à la 46e place. Mais ce qui a marqué aussi dès le début dans Urgence, c'est sa réalisation. Un véritable shot d'adrénaline, parfaitement symptomatique du chaos qui règne aux urgences. Avec les scénaristes de leur côté, la production collecte et recueille toutes les anecdotes possibles en provenance des salles d'urgence des hôpitaux avoisinants. Tous les ans, la production organise une nuit des infirmières dans ses studios et invite des professionnels de la région à discuter de leur vie et des cas qu'elles ont vécu. Et puis Spielberg ne fait pas que donner son nom. Il voit passer, il lit les scénarios des épisodes que John West lui fait parvenir. Les scénarios passent aussi entre les mains des producteurs comme Lance Gentile et Neil Baer, qui ont aussi été médecins et supervisent en même temps le réalisme des situations, même s'ils reconnaissent qu'il est quelquefois un peu difficile d'associer dramatisation avec exactitude médicale. Sur le tournage de la série, des médecins comme le docteur Joe Sachs montrent exactement les mouvements à faire aux acteurs. Et pour chaque épisode, il y a 20 jours de production. La pré-production, le repérage, le casting, la préparation, 8 jours de tournage par épisode, puis montage et mixage. Si le téléfilm pilote d'urgence avait été tourné dans un véritable hôpital, le Nida Vista Hospital, la série, elle, est produite en studio à Burbank, où tout l'hôpital a été reconstitué. Par contre, dès le départ, la volonté est de faire un décor authentique, et pas une version un peu décor de cinéma d'un hôpital, vous savez, avec les grosses portes qui donnent sur rien, quoi. Cela signifie que c'est un véritable étage d'hôpital et de services d'urgence qui est reconstitué. Les portes donnent véritablement accès à des salles ou à des bureaux et surtout, il y a des plafonds et pas les habituels projecteurs et enchevêtrements de câbles que l'on a souvent dans un décor. Cela rend les mouvements de caméra un peu plus compliqués et l'éclairage est un peu plus complexe à gérer. Mais on y gagne en réalisme et cela est très utile pour la fluidité des plans steadicam. Parce qu'en effet, on peut faire des plongées, des contre-plongées sans craindre de tomber sur un bout du décor. À Burbank, tout l'hôpital de urgence tient dans deux studios, les 3 et 11. Et la Steadicam, cette caméra montée sur des amortisseurs dont je viens de vous parler, est utilisée pour plus de 70% de chaque épisode. C'est ça qui fait que l'on suit tous les personnages, que l'on tourne autour d'eux, souvent dans les plans séquences. Par contre, 3 ou 4 fois par saison, une partie de l'équipe va tourner à Chicago 3 jours durant des plans d'extérieur et des scènes qui seront incluses dans les prochains épisodes. De telles scènes sont nécessaires pour donner un peu d'espace à une série qui sinon serait carrément un peu claustrophobique. Les audiences américaines des premières saisons de la série se sont avérées absolument gigantesques. On part de 19 millions de téléspectateurs pour la saison 1 et on arrive à plus de 30 millions pour les saisons 3 et 4. Et elles se sont placées soit première, soit dans les 4 premières places de l'année jusqu'en 2003, jusqu'à la saison 9. Dans le premier épisode de la saison 3, la série s'offre un clin d'œil aux autres séries du jeudi soir sur la chaîne NBC. Si vous regardez dans la VO, à un moment, le docteur Carter doit avoir l'accord d'un autre docteur, le docteur Carubian. Il va voir le docteur Carubian qui est en train de dormir. On ne voit que les pieds du docteur Carubian alors qu'il répond de mauvaise grâce à Carter. Eh bien, dans la VO, la voix du docteur Carubian, c'est David Schwimmer, Ross de Friends. Le contrat initial de la Warner pour NBC durait 4 ans. On approche donc de sa fin. La chaîne payait uniquement 2 millions de dollars par épisode pour une série qui en coûtait 400 000 de plus à chaque fois. C'est le processus habituel, ce qu'on appelle le déficit financing, à savoir la maison de production qui produit la série absorbe les coûts mais garde tous les droits une fois la série diffusée pour les ventes à l'étranger, les rediffusions, les DVD, etc., etc. Or, les chaînes concurrentes CBS et ABC sont prêtes, devant le succès d'urgence, à payer jusqu'à 10 millions de dollars l'épisode, si la suite était signée chez eux. Et manque de chance, du côté de la NBC, on vient d'apprendre que Jerry Seinfeld a l'intention d'arrêter sa sitcom à la fin de la saison. Il n'y a donc plus le choix, il faut accepter un nouveau contrat de 4 ans avec Warner pour la série Urgence, être lié à la série quelle que soit son audience, et payer, accrochez-vous, 13 millions de dollars par épisode pour en avoir l'exclusivité. 13 millions de dollars par épisode. Ça fait 286 millions de dollars par an. Deux fois plus que les profits dégagés par la série. Malgré cela, la chaîne a pu dégager quelques 2 milliards de profits en publicité pour tous ses programmes. Les acteurs de la série, eux, vont bénéficier d'un salaire évidemment plus élevé. 350 000 dollars par épisode pour Anthony Edwards, 275 000 dollars pour Noah Wyle. Cependant, ce deal du siècle a eu un effet boomerang sur la production dans les années qui ont suivi. Pour éviter de perdre des succès en cours de route, comme ça a failli être le cas avec Urgence, les diffuseurs ont commencé à se rapprocher des grands studios de cinéma et de production, tels que Disney pour ABC, Universal pour NBC ou Paramount pour CBS. Comme cela, ils ne risquaient plus rien, car c'était quelqu'un de la même famille qui possédait les droits. De nos jours, tous les grands diffuseurs américains sont des succursales des studios. Et Urgence en est en partie la cause. Pour ouvrir la saison 4, sous l'impulsion de George Clooney, et grâce justement au décor très réaliste avec son plafond que je vous ai décrit, le premier épisode est réalisé en direct. Vous avez bien entendu, en direct absolu. Deux fois dans la soirée du 25 septembre 1997. Une fois pour la côte Est, puis une fois pour la côte Ouest. Trois heures plus tard, pour tenir compte du décalage horaire. Le prétexte est de tout montrer par l'intermédiaire d'une équipe de télévision qui vient faire un reportage et suivre le service des urgences. Ça explique l'image vidéo, le style un peu documentaire caméra à l'épaule. Mais évidemment, comme les scénaristes sont un petit peu méchants, pour corser l'action, il y a même des scènes qui sont faites exprès pour compliquer les choses, comme une bagarre généralisée dans les urgences. Bon, vous imaginez en direct ce que ça peut donner, et un bébé qui doit pleurer à un moment très précis. C'est un véritable exploit technique et artistique que l'on pourra voir aussi en direct en France, sur France 2, en plein milieu de la nuit. Et George Clooney et Noah Wyle ont tellement été enthousiasmés par cet exploit qu'ils feront en avril 2000 un téléfilm en direct aussi, Failsafe Point Limite. C'est un téléfilm réalisé par Stephen Frears avec Richard Dreyfuss. Durant sa saison 6, 1999-2000, les contrats initiaux, non pas de la série, mais des acteurs des origines, ce coup-ci, vont être négociés. Parce que dès le pilote, les acteurs américains pour une série télé signent tous un contrat standard de 7 ans. Mais Julianna Margulies est essorée par la série, elle a des doutes sur l'avenir de son personnage, parce que d'où gros c'est parti, Warner, avec la NBC, tente de lui proposer un nouveau contrat, 27 millions de dollars. Elle serait fidèle l'actrice de série la plus payée de toute l'histoire de la télévision à l'époque. Mais elle refuse, elle quitte la série, comme elle l'avait prévu. La presse va alors se déchaîner contre elle. Elle déclara quelques années plus tard au magazine TV Guide « Anthony Edwards, Noah Wyle ou même Eric Lassalle se sont vus offrir exactement la même somme, si ce n'est plus ». Mais cela n'a pas fait les titres des journaux, parce qu'eux, ils ont accepté. Depuis son départ, Margulies a obtenu des rôles dans des productions comme Les Sopranos et est revenue en force dans The Good Wife en 2009, où elle est avocate et femme bafouée d'un procureur associé à un scandale sexuel, Chris Noth. Clooney, lui, a déjà quitté la série en cours de saison 5, mais à la surprise de tous, y compris des responsables de la NBC, il apparaît un an plus tard, dans l'épisode justement dans lequel Julianna Margulies quitte la série, comme ce qui était prévu. Et pour cette apparition, il n'y a aucune annonce, aucune promo, c'est la surprise totale. Alors les producteurs avaient en effet gardé le secret absolu sur la séquence finale où Carol Hathaway quitte les urgences et s'en va rejoindre Doug Ross à Seattle, bouclant ainsi son histoire personnelle. Clooney avait pris l'avion à Burbank, Margulies à l'aéroport de Los Angeles. C'est vous dire s'il ne fallait pas que le moindre paparazzi les voit ensemble. Ils se sont retrouvés tous les deux à Seattle, John Wells et le directeur de la photographie les ont retrouvés sur place. Il n'y avait pas de maquilleur, ils ont fait leur coiffure, leur maquillage eux-mêmes, ils ont tourné la fameuse scène où elle s'est revenue à Burbank avec le film, l'a mis dans son coffre-fort personnel, il l'a fait monter à la fin de l'épisode à la toute dernière minute et ça c'est encore plus fort, n'a montré l'épisode à la chaîne NBC que le jour même de la diffusion. Le secret était total. Cette même saison 6, la série est parvenue à convaincre une big star française de tenir un rôle dans 5 épisodes de la saison. Le rôle, c'était la mère du docteur Corday. Et cette star, c'est Jeanne Moreau en personne. Sauf que ça ne se déroule pas très bien. Dès le premier jour, Jeanne Moreau attend. Elle attend dans sa loge, elle s'ennuie. Elle se dit qu'elle perd son temps. Finalement, elle s'en va et elle rentre en France. En catastrophe, le rôle est repris par une autre actrice, Judy Parfit. À la fin de son contrat, qui a été renouvelé pour 2 ans, Anthony Edwards décide de ne pas aller plus loin. Et il veut profiter des sommes d'argent faramineuses qu'il a pu gagner pour partir avec sa femme et ses enfants à New York. Ses projets suivants ont été un peu moins heureux qu'Urgence. Le film cinéma sur les Thunderbirds, d'après la série en marionnette, le film a été un four absolument colossal, et une série qui ne dura qu'un an, Zero Hour. Il apparaît aussi dans Law & Order True Crime, mais c'est Eddie Falco qui est la vedette de cette série. Depuis son départ de la série, pour beaucoup d'intervenants, comme le président de la NBC de l'époque, Warren Littlefield, et pour sa partenaire Alex Kingston, cela a marqué une cassure dans la série. Il était réellement ce qui initiait tous les autres. Lors de la lecture du script du dernier épisode où il apparaît au Cook County, tout le monde était en larmes. « Et tous ces départs font que la saison 12 accuse une très nette baisse d'audience. 12 200 000 téléspectateurs en moyenne. On est très loin des 30 millions des années 90. Et même des 15 millions de la saison précédente. En saison 13, sous la houlette du producteur exécutif David Zabel, la série revient à son style urbain, sombre, et abandonne l'humour et les voyages en Afrique. Même si l'audience chute, la part de spectateurs dans la tranche 18-49 ans, qui est la part la plus essentielle pour les annonceurs publicitaires, est plus forte que la concurrence. Donc, on continue de produire Urgence. En 2007, il y a une grève des scénaristes. La saison 14 se voit réduite à 19 épisodes plutôt que les 22 habituels. Le créateur et producteur d'Urgence, Michael Crichton, décède en novembre 2008. Éric Lassalle va donc lui rendre hommage avec un petit message qui a été enregistré au début du 7e épisode de la saison finale de la série. Le dernier épisode de la série est diffusé le 2 avril 2009. Comme le premier, c'est un téléfilm de 90 minutes. Comme le premier, il reprend la musique et le générique bien connu qui ont été abandonnés il y a quelques saisons. Et comme le premier, il est réalisé par Rod Holcombe, réalisateur donc du pilote. Et quelques années plus tard, en 2015, Noah Wyle s'en souvenait encore. John Wells, le producteur exécutif, disait que le pilote de la série, c'était, par de nombreuses manières, les impressions de John Carter face au service des urgences. Son personnage représentait le spectateur, ce qu'il pouvait ressentir sur cet environnement. Et puis pendant 11 ans, il a grandi, il a eu une maturation, un arc narratif que le public suivait. Et puis c'était très naturel qu'il revienne pour faire partie du final. Quand j'ai quitté la série, John s'était bien assuré que je comprenais qu'il voulait vraiment que le personnage fasse partie du final. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je n'aurais manqué cela pour rien au monde. Le final est absolument étonnant. Être réuni avec tous ces personnages, travailler pour Rod Holcombe, qui était déjà le réalisateur du pilote, entraîner ce personnage qui était en troisième année d'études et en faire le chef d'un hôpital, c'est une formidable histoire. Et je pense que ce petit groupe de personnages fait partie de l'histoire de la télévision. Je resterai toujours à la fois très humble et très fier de ça. Cet épisode final d'Urgence fera 16 400 000 téléspectateurs. La semaine prochaine, je tenterai de vous raconter la série Lost et surtout ses coulisses. Et notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.